Le clivage, c'est bon. Tout le monde
tweet, filme tout
en direct. Les films, les courts-métrages, du spectacle. Ouais,
9h40, l'instant M, ça passe vite et ça en dit long.
Parce que le lapin, couche, c'est exactement Charlie Chaplin.
Trois, une presse indépendante.
Information numérique.
Le nez sur l'écran internet.
Les bourses mondiales dévissent. C'est obscur, mais ça fait les titres du matin. Quoique, si on y réfléchit, tous les jours, nos journaux s'achèvent par un tour à la Bourse de Paris. C'est ainsi, les marchés ont droit au dernier mot de l'info. Et pas que. Dette, gabegie, productivité, prix, pouvoir d'achat, cours des comptes, coût du travail sont autant de vocables servis à longueur de JT et de magazines. Bref, on se fait engueuler toute la journée parce que la France s'enfonce, qu'on ne peut pas la réformer et qu'on entrave sa compétitivité. Un catéchisme néolibéral trompeur, dévastateur selon vous, Éloi Laurent. Bonjour.
Bonjour.
Économiste, enseignant à Sciences Po et à l'Université de Stanford aux États-Unis, avec vous, direction France 2, BFM Business, D8, M6, France Inter et ce qu'il reste de notre presse économique.
L'instant M, le rendez-vous média de France Inter.
Le petit monde des médias pour commencer à lire dans Le Monde ce matin, la réflexion entamée par l'audiovisuel public pour réunir ses forces au sein d'un seul et même site d'information. Il regrouperait donc les contenus de France Info. Et de France TV Info.fr. Bref, les ponts sont en train de se multiplier entre nous et France Télé. BFM TV jouait son dernier va-tout dans la guerre des chaînes d'infos, mais le Conseil d'État vient de statuer, LCI passera bien en gratuit. La décision du CSA n'a pas été démentie, donc c'est bien 3 chaînes d'infos qui se feront concurrence dès ce printemps. Et 4 à la rentrée avec la naissance de l'entité siglée Radio France et France Télé. Ça va en faire des allers-retours avec la bourse en période de crack. Voilà, alors ce que je vous propose, Éloi Laurent, c'est non pas d'analyser cette actualité financière, évidemment on va y revenir, hein, mais plutôt de nous plonger dans le quotidien de ce qu'on nous raconte aux 20h, comme ça, chaque soir, sur l'économie. Pourquoi les JT? Pourquoi est-ce qu'on va commencer par les JT? Eh bien parce que 85% des Français s'estiment nuls en économie et 65% d'entre eux désignent la télévision comme première source d'information économique.
La France est le pays où on travaille le moins, à l'exception de la Finlande. Sur une année, 1661 heures. C'est moins qu'en Italie, qu'en Espagne, c'est moins qu'en Allemagne, 1847 heures, qu'au Royaume-Uni et qu'en Pologne, 1943 heures. Un employé dans l'assurance ou la distribution. Là, le coût moyen est de 34,60 euros de l'heure et c'est supérieur à l'Allemagne, 31,40 euros. En haut, le Danemark, mais en dessous, le Royaume-Uni et l'Espagne, 21,30 euros. La Roumanie et la Bulgarie, 3,80 euros.
Voilà, le temps de travail, le coût du travail, selon mon confrère Jean-Pierre Chapelle, ses courbes et ses tableaux, il ne se déplace jamais sans sur le plateau de David Pujadas. Éloi Laurent, vous publiez aux éditions Les Liens qui Libèrent, quel beau nom hein, pour une maison d'édition, une maison d'édition. Nos mythologies économiques, un ouvrage très bref, très facile à lire, je le dis, et méchamment rentre-dedans. Qu'est-ce que ça vous évoque, les tableaux de Jean-Pierre Chapelle ?
Ça m'évoque précisément la façon dont ces mythologies économiques dont je parle dans le livre sont relayées, sont entretenues, sont nourries quotidiennement. Et là, par exemple, on a deux discours qui sont, quand on y réfléchit bien, extrêmement à la fois faux et dangereux. Le premier discours, c'est le discours du dénigrement du modèle français. C'est-à-dire que ce qu'on nous dit là, c'est les Français sont paresseux, ils travaillent trop peu. C'est tout simplement faux. C'est-à-dire qu'on peut très bien prendre une statistique comme celle-là, comme il y a 30 secondes de temps que personne n'est là pour vérifier ce que ça veut dire, on ne va pas effectivement opposer, donc ce n'est pas contradictoire, on ne va pas opposer d'autres statistiques. En réalité, le temps de travail français est tout à fait important, on peut parfaitement montrer qu'il est supérieur à plein d'autres nations. Et surtout, la grande question, c'est le temps de travail par rapport d'un côté à la richesse produite et par rapport aussi à la qualité de la vie. Et de ce point de vue-là, la France est en réalité un des pays les plus développés au monde. C'est-à-dire qu'on arrive à produire énormément de richesses en travaillant relativement peu, ce qui est un signe d'intelligence. Ce n'est pas du tout un problème. Je veux dire, c'est au contraire quelque chose de formidable. Et de l'autre côté, on arrive à utiliser ce temps libre pour avoir des loisirs, etc. Ce qui est quand même, enfin, je ne sais pas ce que Jean-Paul Chapelle pense qu'est le but de l'existence humaine, mais je veux dire, depuis très longtemps, on pense que le travail, c'est plutôt quelque chose de désagréable. Et qu'en revanche, ce qui est agréable, c'est d'utiliser le temps libre pour l'amour, l'amitié, les relations sociales, la culture, etc., les loisirs. Donc c'est quelque chose qu'on devrait au contraire glorifié en disant c'est formidable, voilà un pays dans lequel on produit des richesses, puissance économique très très importante, la France, on arrive à travailler relativement peu, donc on a une qualité de vie qui est plutôt bonne, et au contraire, on dénigre le modèle français.
Mais là, on est rattrapé par le coût du travail.
Donc par le coût, et donc on ne comprend pas le travail autrement que l'idée qu'il y a effectivement un coût du travail, autrement dit que, par exemple, le bénéfice, on n'en parle pas, et le fait que, par exemple, le coût du travail peut servir, en l'occurrence en France, à financer des services publics, de la protection sociale, etc. Quel est le point, si vous voulez, d'avoir un coût du travail qui est très faible quand vous avez en face de ce coût des salaires de misère d'un côté et de l'autre aucune protection sociale. Donc le fait que le coût du travail soit important, c'est parce que les salaires sont par exemple plus élevés qu'en Roumanie, ce qui est a priori quand même une bonne chose, et de l'autre côté qu'on a par ailleurs une protection sociale qui est développée, puisque donc il y a des cotisations sociales qui font que ça va financer la protection sociale.
Alors
donc,
Éloi Laurent, vous vous le dites, hein, c'est ce catéchisme, hein, cette voix qu'on entend, qui est à peu près la même d'un média à un autre, c'est un mélange, je vous cite, particulièrement toxique d'idéologie et d'amateurisme, le nombre croissant de commentateurs dont la compétence est minuscule, récitant sur un ton comminatoire un catéchisme auquel ils ne comprennent rien. Quand je disais que c'est rentre dedans, c'est rentre dedans.
Bah, écoutez, c'est parfaitement ce qu'on entend. Quand, je veux dire, de quoi meurt l'Europe aujourd'hui, si on regarde concrètement les choses ? De la concurrence sociale et fiscale. C'est ça dont meurt le continent européen. Ce qui fait que les Européens n'arrivent pas à sortir de cette crise, n'arrivent pas à s'entendre, c'est qu'ils ont une logique de concurrence, une espèce de discipline de la concurrence, et qu'il n'y a pas de culture de la coopération. Et ce qu'on nous dit là, c'est accentuons encore ça. Comparons les choses, disons, allons au moins 10 ans, allons, donc si je comprends bien, le moins cher c'est le mieux, celui qui a le coût, on va tous aligner sur le coût du travail en Roumanie pour faire... C'est exactement ce... On a la démonstration là, à l'écran, de la concurrence sociale européenne.
Et ces mots qui reviennent tout le temps dans les médias, compétitivité, productivité, attractivité. Vous vous le dites, c'est une sorte de mythologie qui engendre une instrumentalisation des concepts économiques à tel point qu'ils finissent par signifier le contraire exact de ce qu'ils veulent dire.
C'est très clairement le cas. Quand on dit productivité, c'est quoi la productivité depuis les débuts de l'histoire humaine ? C'est faire en sorte de libérer du temps de loisirs, c'est ça la productivité, c'est en sorte de réduire le temps de travail pour libérer du temps loisir tout en maintenant un certain bien-être matériel, c'est ça la productivité. Aujourd'hui, l'effort de productivité, quand on demande aux gens de faire des efforts de productivité, c'est le contraire exact, c'est-à-dire on leur demande de travailler plus longtemps pour le même salaire, autrement dit de perdre du bien-être matériel en perdant de la qualité de vie au nom de cette idéologie de la productivité. Donc la compétitivité, c'est la même chose.
Bon, alors, c'est pas grave si l'Europe s'enfonce. Parce qu'il y a l'Amérique et parce qu'il y a BFM Business qui nous emmène régulièrement visiter la Silicon Valley.
BFM Business présente Tech & Co Plus.
Soyez les bienvenus, nous allons partir à la découverte de ces startups qui inventent un nouveau monde avec ce documentaire que nous allons visionner ensemble dans une poignée de secondes et qui donne le vertige. Vous savez pourquoi ? Tout simplement parce qu'on va partir du côté de la Silicon Valley.
L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter avec Sonia De Villers.
Éloi Laurent, économiste, est mon invité ce matin pour ce petit livre « Nos mythologies économiques ». Ça vous file le vertige, la Silicon Valley ?
Pas tellement. D'abord, moi, je connais parce qu'il se trouve que j'y enseigne. Et donc, j'enseigne dans l'université, qui est l'université de Stanford, où sont nés Yahoo, Google. Et donc, je vois ça d'assez près. Mais du coup, ça ne donne pas le vertige au sens du fantasme français sur c'est là qu'on
parce
invente.
Parce qu'il y a fantasme, il y a fantasme médiatique.
Fantasme absolument considérable. Le seul problème, c'est
qu'il y a fascination même.
Il y a une fascination sur l'idée que c'est là que s'invente le monde de demain, ce qui est en partie vrai pour ce qui est de la recherche dans les universités, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un écosystème dans lequel on a réussi à privatiser des ressources publiques qui sont extrêmement importantes, qui sont la qualité de la formation précisément produite par les universités, dont certaines sont publiques, comme par exemple l'université de Berkeley. Donc il y a un vivier de talents, et on a privatisé ça au service de quelques entreprises qui ensuite refusent en quelque sorte de redonner des gains astronomiques accumulés au fil des années à la collectivité, en mettant en place, par exemple, des stratégies d'évasion fiscale. Donc quand on regarde la Silicon Valley, ça peut faire rêver.
Alors,
quand on regarde...
en mettant en place des stratégies d'évasion fiscale, mais en ayant bénéficié aussi fortement de politiques d'aménagement fiscal, en étant exonéré d'impôts à quasiment 90%, et donc vous l'écrivez noir sur blanc, et ça fait du bien de l'entendre parce que personne ne nous le dit comme ça. Personne d'autre que la puissance publique n'est en mesure de créer des marchés et la Silicon Valley est un pur produit du capitalisme public. Et ça, on l'entend jamais.
Mais non, pas du tout. C'est formidable. On nous vante la Silicon Valley comme une espèce de contre-modèle par rapport à l'État français qui serait très lourd, très bureaucratique, etc. Mais la Silicon Valley sans le Pentagone d'un côté et sans les universités publiques, ça n'existe pas. C'est-à-dire ce qui a créé la Silicon Valley, c'est le fait que le ministère de la Défense a décidé d'investir massivement dans ces choses. Ce qui a fait Internet au début, c'est précisément l'armée américaine. Ce qui fait en fait tout, ce qui a fait cet écosystème de création de valeur dont ensuite des entreprises peuvent profiter en privatisant ces ressources, ce sont à l'origine des biens communs qui sont financés par des investissements publics. Donc si on veut la Silicon Valley, il ne faut pas du tout baisser les impôts sur les plus riches et je ne sais quoi. Il faut investir massivement dans la recherche, l'enseignement, l'université, ressortir l'université française de la paupérisation dans laquelle elle est. C'est ça l'enseignement de la Silicon Valley.
Donc là, on est au cœur d'une des mythologies économiques que vous pulvérisez et qu'on entend pourtant régulièrement, quasi même tous les jours. C'est l'innocence du marché spontané et la contrainte d'un État oppresseur. Oui, c'est ça, oppresseur.
Et c'est le fait, c'est exactement ça, et c'est le fait aussi qu'en quelque sorte, la valeur économique, la richesse, viendrait de nulle part. C'est-à-dire l'idée, ce serait au fond, ce qui compte, c'est les entrepreneurs, eux créent des richesses, et puis après, l'État, le méchant État, va redistribuer ces richesses, et notamment aux assistés, donc pour rendre le système improductif. Sauf que ce qui fait que la richesse peut être créée, au début, c'est précisément le fait qu'il y a un écosystème qui permet cette création de valeur. C'est-à-dire, ce sont des institutions et des biens communs. Et c'est ça qui a fait qu'aux États-Unis, par exemple, on a eu tout le système d'enseignement californien qui a nourri pendant des décennies ce qui a ensuite donné la Silicon Valley. Et le problème aujourd'hui, c'est que comme on a privatisé tout ça, on a une Californie qui s'effondre au moment où la Silicon Valley rayonne. Et le grand paradoxe de la Californie aujourd'hui, c'est que les écoles publiques vont très très mal, les routes sont complètement cabossées, mais que les voitures qui roulent sur ces routes sont de plus en plus luxueuses. Mais le problème ultime de ce modèle, c'est que même si vous avez une voiture de luxe, si vous avez une route complètement cabossée, vous n'avancerez pas. C'est-à-dire que si au total, on a ruiné les biens communs, même ces entreprises-là finiront par être rattrapées par le fait que plus personne ne sera formé correctement parce qu'il n'y aura plus et les gens seront en mauvaise santé, etc.
Donc, alors on l'a dit, l'innocence du marché, la bonne santé du marché, nos flashs, nos journaux se terminent par la bourse. J'ai toujours rêvé d'envoyer Jean-Yves Courtial.
Direction maintenant la Bourse de Paris pour retrouver l'exaltant Jean-Yves Courtial. Début de journée en petite hausse, Jean-Yves.
Et oui, il est ici après une heure de cotation. Le CAC 40 parvient très difficilement à préserver ses gains. En hausse de plus d'1% à l'ouverture, le CAC 40 ne gagne plus que 0,12% à 4230.
C'est une particularité française de terminer les infos par la santé du marché.
Aux États-Unis, par exemple, le grand journal de la chaîne publique PBS donne régulièrement les chiffres, enfin même quotidiennement les chiffres de la bourse. Que ce soit le dernier mot, à ma connaissance, c'est effectivement une particularité. Mais ça existe peut-être dans d'autres pays. Mais moi, je suis frappé par le fait que le dernier mot de l'actualité tous les jours, effectivement, est donné au marché financier, ce qui, du coup, donne l'idée que c'est ça la nouvelle la plus importante. Pourquoi, par exemple, on ne terminerait pas tous les flash infos par le niveau de CO2, les émissions de CO2? Pourquoi ça ne deviendrait pas ça l'indicateur fondamental qui serait là, accompagnerait les gens? Et puis, ce qui me frappe encore plus, c'est la façon, c'est l'anthropomorphisme à l'égard des marchés financiers.
C'est
en ce moment, on a des difficultés sur les marchés financiers. On parle de la déprime des marchés. On parle de la mauvaise santé des marchés. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas, par exemple, à la dépression des Français, on s'intéresse à la dépression des marchés financiers. On ne s'intéresse pas à la santé ou à la bonne santé des Français, mais à la bonne santé des marchés financiers. Comme si c'était des gens dont il fallait prendre soin. D'ailleurs, c'est très amusant. On a des analystes financiers. Donc maintenant, on a des gens qui font des psychanalyses des marchés financiers. Et vous avez des analystes qui analysent la déprime des marchés financiers qui sont plus ou moins en bonne santé.
Je vous renvoie à la chronique de 8h-2 de ma consoeur Charline Vanhoenacker, qui justement s'est baladée dans les mots, M-A-U-X, mais surtout MOTS de cette information financière quotidienne. Cette information économique, ce regard économique, il est permanent aussi dans les JT, aussi beaucoup dans les documentaires et les magazines sur nos chaînes de télévision et beaucoup, beaucoup par le prisme de la consommation et du prix. Je vous propose d'écouter Guy Lagache, c'est sur D8.
Y aurait-il enfin un moyen de réduire nos dépenses de consommation? Serait-il possible de vraiment payer moins cher les courses du quotidien, les courses basiques, comme par exemple celle qui consiste à remplir son frigo? Ces questions, dans de très nombreuses familles, on se les pose de façon quasi obsessionnelle aujourd'hui. Il faut dire que l'année qui commence s'annonce plutôt compliquée pour la plupart des Français.
Voilà, le téléspectateur est un omni-consommateur. Quand on regarde la télé, on lui parle que de bouffe, que de qualité, que de produits. Que... D'un côté, on le gave de pub, de l'autre, on lui martèle qu'il n'a pas les moyens, que la vie est chère, que les prix sont trop hauts. Éloi Laurent.
Et donc, du coup, on conduit les gens à ne pas s'interroger sur ce qui fait qu'on peut avoir des prix pas chers. Parce que l'idée selon laquelle donc, il y a une crise économique, ça va mal, on ne s'interroge pas sur la raison pour laquelle il y a cette crise économique et la façon qui est donc la crise des marchés financiers et le fonctionnement des marchés financiers et la façon dont le gouvernement a plus ou moins bien géré la crise économique, en l'occurrence une politique d'austérité. On oublie les marchés financiers, on oublie l'austérité, on en arrive à l'idée, bon bah puisque votre salaire fondamentalement est faible et que l'économie va mal, il faut que vous trouviez un moyen de survivre en ayant les prix les moins chers. Ce qui veut dire que quelqu'un à l'autre bout de la chaîne va avoir évidemment un salaire qui va être en conséquence. C'est-à-dire que l'idée sur laquelle on va chercher le prix le moins cher, on revient à la logique du moins 10 ans. C'est-à-dire on a le moins 10 ans en termes de prix. Donc on cherche au bout de la chaîne la personne qu'on va pouvoir ubériser, puisque c'est le terme à la mode, qui va vous garantir à vous votre niveau de vie, parce que ni le gouvernement, ni la régulation des marchés financiers ne le permet. Et on voit là...
Donc ce sont qui ces gens-là? Ce sont les agriculteurs, les éleveurs de porcs, voilà. Ce sont les gens qui travaillent dans des usines en Inde pour fabriquer de la fringue
exactement.
Pas chère.
Et donc on oublie toute la chaîne de production, on se concentre uniquement sur l'acte de consommation et sur l'idée recherchons le prix le moins cher, en oubliant entre parenthèses, la question de la qualité et en oubliant aussi la question, une fois de plus, de l'écosystème social qui fait qu'on a des prix moins chers. Et le problème quand on crée des compagnies low cost, etc., c'est que ça veut bien dire que quelqu'un va payer en réalité ce prix moins cher. Et c'est certainement pas les actionnaires des entreprises en question. Donc c'est évidemment les conditions de travail des gens qui produisent ces prix moins chers. Donc la course au moins 10 ans, ça veut dire aussi le moins 10 ans social et ça veut dire qu'on abaisse la qualité de vie de quelqu'un quelque part. Et le système qui se concentre sur l'acte de consommation tend à effacer complètement cette réalité-là. Et la mythologie économique, c'est autant ce que l'on raconte que ce que l'on ne dit pas. C'est autant ce qui est visible que ce qui est invisible.
Voilà, ce qu'on ne dit pas, il y a quand même quelque chose de très important que vous martelez dans ce livre, c'est que cette rhétorique économique, parce qu'on a bien compris que c'était sa fonction primordiale, cette politique, cette parole politique qui s'est vidée de son sens, qui s'est vidée de ses mots, qu'on n'entend plus, elle est remplacée petit à petit par ses chiffres et par ses injonctions. Ouais. Il ne faut pas que, il faut qu'on, etc., etc. On ne doit pas, on devrait.
Ouais. J'ouvre le livre en disant que, en effet, la
et vous
puissance
le refermez aussi là-dessus.
Et aussi là-dessus, la puissance de la mythologie économique, c'est aussi la faiblesse du discours politique. C'est-à-dire que c'est au fond un discours qui impose des impératifs parce qu'on n'arrive plus à les imposer de manière politique. On n'arrive plus à persuader les gens, à convaincre les gens. Donc on dit au fond, c'est pas moi, c'est l'économie. Donc il faut faire les efforts parce que Bruxelles, parce que c'est Washington, ça. Parce que c'est Pékin, ça. Etc. Et on change à chaque fois parce que la Silicon Valley, demain ce sera parce que Bangalore. Voilà.
Avec un culte de la fatalité en quelque sorte. On ne parle que de contraintes, de refus, de punitions, de frustrations, de renoncements, d'obligations. Et ce qui est extrêmement pénible et dur à entendre
chaque
jour.
Et ce qui est toxique. Et ce qui est anxiogène, c'est-à-dire qu'on développe fondamentalement l'idée qu'en effet, ça n'est qu'un discours de contrainte. Donc on n'a jamais l'idée qu'on peut ouvrir de nouveaux possibles, qu'on peut s'interroger sur les sujets, et moyennant quoi, il y a des sujets entiers qui sont totalement impensés, donc par exemple la construction économique européenne, la question de la financiarisation, qui n'est absolument pas réglée, évidemment, il ne faut pas penser une seconde qu'on est sorti des causes pour lesquelles on a eu la crise financière. Ça fait juste 7 ans qu'on n'en parle plus, c'est-à-dire qu'on parle d'autre chose, on parle des conséquences. On ne parle plus du tout des causes. Et le danger de ça, c'est qu'à ne plus débattre des questions économiques et sociales, on arrive très très vite sur d'autres questions qui sont encore plus dangereuses. Parce que c'est des questions, qui sont dangereuses. Les questions identitaires et culturelles, il faut bien comprendre que la fièvre identitaire qui s'empare de tout le monde en Europe et aux États-Unis, c'est aussi cette absence de débat véritablement contradictoire sur les questions économiques. Donc on ne se dispute plus sur l'économie et on en arrive sur des questions qui sont des questions, alors là, vraiment toxiques.
Alors justement, vous allez les retrouver dans la troisième partie de nos mythologies économiques dont je vous parle depuis ce matin avec beaucoup d'enthousiasme. Merci beaucoup, Éloi Laurent. Merci d'être venu dans l'Instant M. Un jour en France. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour Sonia de Villers. Est-ce que vous connaissez le taux de chômage à Vitré en Ille-et-Vilaine?
Non.
5,5%. C'est quoi le secret et qu'est-ce qui est généralisable dans ce modèle? Ce sera l'émission aujourd'hui.
Je vous passe Éloi Laurent d'un studio à l'autre. Chaque jour avec Bruno Dubic, nos émissions se complètent merveilleusement.
Donc voilà, et vos questions sur ce modèle 01 45 24 7000 et un jour en France @radiofrance.com.
Et ce sera juste après les infos.